A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2,21 chicorois! Mon Dieu!
Recherche,
scanner. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue?
Chut, Jamy, je mène une enquête!
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Merde, j'ai plus de pierre, qu'est-ce qu'on fait?
Ensemble, nous ferons des choses extraordinaires. Alors donne-moi la pierre!
On a déjà parlé de la pierre. Je peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon. Eh, je suis pas magicien, hein.
Pierre qui roule n'amasse pas mousse, ça vous dit quelque chose? Chez les chasseurs de météorites, on a un dicton similaire, pierre qui tombe ramasse du flouze. Sidérite, chondrite, mésosidérite, eucrite, météorite lunaire ou martienne, les déchets sidéraux, agrippés par l'attraction de la Terre, valent leur pesant de cacahuètes goût truffe. Depuis quelques années, alors que les chercheurs restent la tête en l'air à se demander comment poser les pieds sur Mars, les chasseurs de pierres ont les yeux fixés sur le sol et leurs détecteurs de métaux en quête d'un bout d'astéroïde ou de planète étrangère. Le filon n'est pas de première jeunesse, mais il est plus que juste. Songez qu'un gramme de météorite martienne peut s'acheter jusqu'à 10 000 euros. Je dis bien un gramme. Comme vous pouvez l'imaginer, cette flambée des prix n'est pas sans poser quelques problèmes aux scientifiques qui voient les pierres leur passer sous le nez et finir dans l'étagère d'un collectionneur fan de Bruce Willis et du film Armageddon. Devant son savoir, je vais m'écraser aussi plat qu'un astéroïde sur le plancher des vaches. Franck Daninos est notre invité du jour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste en sciences fondamentales du magazine Science et Avenir. Bienvenue à 6ème Science. J'ajoute une question à ce qui était prévu au conducteur, je suis désolé, je modifie un petit peu les choses, mais comment est venue l'idée de traiter la question du marché de la météorite dans 6ème Science, dans Science et Avenir, pardon?
Eh bien, il y a quelques mois, lors de l'écriture et la préparation d'un autre article, je travaillais sur les 50 ans donc d'Apollo 11, donc pour le juillet de cette année. Et puis effectivement, un chercheur m'a parlé d'un événement très particulier qui se passait en France. Donc on était en train de parler des roches lunaires, des météorites lunaires, et donc il m'a dit s'il y a un endroit à aller voir et les personnes qui savent vraiment, qui sont vraiment spécialistes de ça. Donc c'est dans un petit village qui se trouve en Alsace à Ensisheim, où tous les ans depuis 20 ans donc se réunissent les plus grands chasseurs de météorites, collectionneurs, donc qui viennent du monde entier. Et donc là, il y a des dizaines de milliers de pierres qui sont présentées, qui sont échangées, soit effectivement sur des tables, soit un peu avant, un peu après, sous le manteau. Enfin, j'ai d'ailleurs découvert cet univers très particulier où effectivement j'ai pu voir des pierres lunaires, mais aussi des astéroïdes de toutes sortes. Et donc c'est vraiment le si je puis dire, le repère des collectionneurs de météorites. Donc ça se passe en France et c'est comme ça que j'ai découvert ce moi-même, je savais que ce marché existait, mais j'en imaginais pas l'ampleur et j'ai pu voir à quel point il était florissant et se développait depuis quelques années.
Alors merci pour cette petite introduction. On revient un petit peu en arrière, parce qu'il est important pour moi de savoir vraiment de quoi on parle. J'ai une question assez simple, c'est quoi une météorite au départ?
Alors, une météorite, c'est une pierre, une roche extraterrestre, donc qui est tombée sur Terre, qui a traversé notre atmosphère et donc qui se retrouve donc sur le sol. Et donc ces pierres peuvent être d'origine multiple. L'origine principale, c'est une origine astéroïdale. C'est-à-dire que la plupart des météorites sont en fait des fragments d'astéroïdes qui se situent pour la plupart dans ce qu'on appelle la ceinture principale d'astéroïdes. Entre Mars et Jupiter, il y a des millions et des millions de corps donc qui orbitent dans cette région-là. Qui d'ailleurs, en fait, c'est un peu les reliques du système solaire. Ce sont des matériaux extrêmement anciens qui nous ramènent aux origines même du système solaire il y a 4,5 milliards d'années. Le système solaire est né d'une nébuleuse qui s'est petit à petit condensée pour former des matériaux, des poussières, des agrégats de plus en plus importants, donc qui se sont assemblés pour former des astéroïdes de plus en plus gros qu'on appelle des planétésimaux, qui se sont eux-mêmes assemblés pour former les planètes. Donc une partie a permis de former les planètes, une grande partie a été absorbée par le Soleil, et ce qui reste, ce sont ces pierres qui flottent, qui gravitent encore une fois donc entre Mars et Jupiter, et de temps en temps en fait elles se il y a des collisions, elles s'entrechoquent. Et puis, par ce jeu de collisions, il y en a certaines qui, ça va un peu partout. Certaines sont attirées vers le système solaire interne, notamment la Terre, et donc elles traversent l'atmosphère. Certaines explosent, ça dépend de leur taille, mais on peut en retrouver certaines qui tombent fréquemment, enfin qui tombent régulièrement depuis toujours. Et donc c'est ça qui effectivement suscite un intérêt très important des collectionneurs.
Donc il y a des météorites qui viennent d'astéroïdes, mais il y en a aussi qui viennent de planètes, de Mars par exemple.
Tout à fait. Il y avait des soupçons, mais on a pu avoir la preuve formelle avec les missions Apollo. Quand on a été chercher, qu'on a ramené des pierres sur Terre, qu'on a fait les analyses, qu'on a comparé avec ce qu'on avait déjà retrouvé au 19e siècle par exemple, on a pu dire effectivement ce sont des pierres martiennes. Alors comment expliquer que des morceaux de Mars se retrouvent sur Terre ? Ça peut paraître extraordinaire, incroyable. Il y a effectivement de gros astéroïdes qui frappent la surface martienne, qui vont éjecter des roches, de la matière, qui va petit à petit, par le jeu des forces de gravitation, atterrir sur Terre et nous parvenir. Même chose pour la Lune. On a là aussi, il y a des astéroïdes qui frappent la surface de la Lune, d'ailleurs qui est beaucoup moins protégée que la Terre, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de champ magnétique. Et donc là aussi, il y a des éjections, et on retrouve comme ça des morceaux de Lune, donc sur la Terre, qui permettent de compléter les collections. Alors, on n'a jamais eu encore de météorites qui viendraient de Mercure ou de Vénus, mais ça pourrait être, ce serait théoriquement possible. Évidemment, si on les trouverait, ça prendrait une énorme valeur, puisque ce seraient les premières. On n'en est pas là. Et il y a aussi les météorites d'origine cométaire qu'on cherche, mais qu'on n'a toujours pas trouvé. Là aussi, qui aurait une très très grande valeur si un jour on pouvait en dénicher.
Donc c'est des débris de comètes qui se détachent pendant qu'elles passent au-dessus de l'atmosphère.
Parce qu'en fait, les comètes, contrairement aux astéroïdes, contiennent énormément d'eau, des glaces d'eau. Donc quand elles arrivent dans l'atmosphère, elles sont portées à très haute température. Donc il y a des phénomènes qui suscitent des explosions, et en fait toute la matière se désintègre. Et donc c'est pour ça qu'on a très peu de chances de retrouver des météorites d'origine cométaire sur Terre. Mais certains scientifiques pensent qu'il y a des soupçons, des analyses sont toujours en cours, donc on pourrait un jour avoir des preuves un peu plus formelles de ce type de météorites.
Je croise les doigts.
Ça, c'est de la panda du Mexique. Un vrai truc d'enfer. Ça, c'est de la bava. Différente, mais extra aussi. Et ça, c'est de la choco, du Harz, une montagne allemande. Les deux de droite sont toutes les deux extra. $300 le gramme, et je te fais un prix. Mais celle de gauche, c'est un poil plus cher.
Et bon, comment on explique l'intérêt qui a été porté ces dernières années, parce que ce que tu dis dans l'article, il y a énormément de chasseurs désormais de météorites qui sont lancés en quête d'un bon kilo de pierres venues d'ailleurs. Et est-ce que c'est le fait qu'on parle beaucoup de la conquête de Mars ou l'anniversaire tout simplement des 50 ans des premiers pas de l'homme sur la Lune qui font qu'il y a un regain d'intérêt pour l'espace?
Alors effectivement, cette fascination, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, elle est ancienne, elle a pris des formes diverses. On retrouve dans la préhistoire ou dans tout un tas de textes effectivement cette fascination pour ces pierres qu'on a vues tomber du ciel. Il y a un marché qui s'est développé il y a 25 ans, mais effectivement on voit là depuis quelques années un engouement très fort et qui va croissant. Alors plusieurs raisons expliquent à mon sens à cet l'engouement actuel. Les choses que j'ai pu retrouver dans les interviews que j'ai pu faire, les rencontres que j'ai eues là pour préparer cet article. Effectivement, tu as raison. On est dans une période où l'exploration spatiale fascine à nouveau avec tous ces programmes vers la Lune, vers Mars, donc qui suscite un intérêt renouvelé. Il y a aussi un épisode dans les chasseurs de météorites là, que notamment les jeunes là que j'ai pu rencontrer. Il y a la météorite de Tcheliabinsk, donc qui s'est écrasée dans le sud de l'Oural en 2013. Donc c'était un événement tout à fait singulier. C'était une pierre vraiment massive. À l'origine, c'était 13 000 tonnes, donc qui a causé quand même 1 600 blessés. Bon, même si c'était des blessés légers, c'était quand même assez notable, équivalent de 30 bombes d'Hiroshima. Et en fait, c'était la deuxième explosion la plus importante recensée, enfin depuis qu'on fait ce type de mesure, depuis 1908. Effectivement, ça a fasciné beaucoup de gens. Beaucoup de gens se sont intéressés aux météorites, ont décidé de se documenter et pourquoi pas de franchir le pas, d'essayer eux-mêmes de devenir des chasseurs et de partir aux quatre coins du monde pour essayer de trouver donc ces météorites. Et puis il y a aussi deux phénomènes qui ont participé à la montée des prix. Il y a effectivement des collectionneurs, notamment aux États-Unis, dans la Silicon Valley, qui se sont peut-être un peu lassés des objets un peu classiques dans l'art contemporain et qui il y a cet effet de mode. Ils achètent effectivement des météorites, peut-être pour épater leurs amis, peut-être pour avoir un morceau d'espace effectivement dans leur bureau ou chez eux et pouvoir le montrer comme ça. On a vu aussi depuis à peu près 3 ans la Chine qui achète à tour de bras des météorites, donc pour garnir les musées, les planétariums, pour aussi en faire des sculptures, notamment des météorites de faire, leur donner des formes particulières, en faire des œuvres d'art. Et donc tout ça a participé. En fait, les prix ont monté, donc il y a de plus en plus de gens qui veulent aussi se mettre à les collectionner, peut-être même à en chercher. Donc ce qui fait qu'on a ce marché qui s'alimente et qui progresse de plus en plus avec des prix stratosphériques qu'on
dépasse actuellement. Ouais, parce que c'est ça, on disait tout à l'heure, un bout de météorite martienne peut aller jusqu'à 10 000 euros du gramme.
Voilà, entre même 10 15 000 euros le gramme, c'est vraiment des records. Les prix sont très variables. Ça peut aller de quelques dizaines de centimes d'euros le gramme jusqu'à effectivement ces prix records. Mais du coup, en fonction de tout un tas de paramètres et évidemment la taille, on peut aller sur certaines pièces à 1 million d'euros. Donc évidemment, ça réserve peu de personnes sur Terre sont capables ou désireuses d'acheter ce type de pierre. Mais tout en haut de la pyramide, on a des choses exceptionnelles. Il y a des ventes aux enchères où les très grands collectionneurs se déplacent ou font venir des personnes pour arracher à prix d'or donc ce type de pierre.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est pour mon père. Il fait collection. Elle est belle, hein? 18e, ça va sûrement lui faire plaisir.
Ton père fait collection de louches.
Il en a plus de 300. Ça l'occupe bien depuis qu'il a pris sa retraite.
Mais qu'est-ce qu'on en fait, finalement? On parlait de collectionner, éventuellement de fondre une partie de ces météorites pour en tirer du fer ou en faire quelque chose. Mais quel est l'usage? Alors, il y a un usage scientifique aussi, j'imagine, météorites.
Alors, effectivement, les scientifiques étudient ces météorites depuis longtemps. Il s'agit d'en tirer tout un tas d'informations sur la géologie des planètes, des astéroïdes, sur la répartition de l'eau dans le système solaire. Donc il y a des météorites qui sont plus ou moins importants, mais en tout cas les scientifiques, à chaque fois qu'il y a une nouvelle chute, donc il s'agit de récupérer un échantillon pour savoir ce que ça peut nous compléter nos informations et pourquoi pas faire de grandes découvertes. Mais après il y a d'autres usages, effectivement dans les musées, bien sûr il y a des grands musées qui ont constitué au fil des siècles des grandes collections pour montrer au public effectivement ces pierres extraterrestres et susciter de l'intérêt. On voit aussi effectivement tous ces collectionneurs qui ont été piqués par cette passion et qui veulent avoir un échantillon de la plupart des météorites importantes. Et donc là aussi, on voit bien, dès qu'il y a une pierre, donc il y a des gens qui partent tout de suite, on sait que c'est tombé à tel endroit, ils partent en équipe, en expédition pour ramasser des morceaux extrêmement rapidement. Et puis il y a tout un tas de gens qui veulent tout de suite avoir un morceau de ci, un morceau de ça, et donc qui font le tour du monde pour compléter leur collection. Donc c'est vraiment, voilà, on appelle ça peut-être la collectionnite, une fois qu'on est une sorte de maladie. On peut collectionner tout un tas de choses, mais en tout cas pour les météorites aussi, ça peut prendre des
proportions un peu colossales.
Absolument. Surtout qu'effectivement, il faut quand même un certain budget. Après, encore une fois, toutes les météorites ne coûtent pas aussi cher. La plupart, ça peut être quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines d'euros. Mais en tout cas, il faut quand même consacrer beaucoup d'énergie et d'argent pour pouvoir assouvir aussi cette passion, si je puis dire.
Mais qu'est-ce qu'elles ont visuellement? Enfin, tu vois. Qu'est-ce qu'il en ressort quand on regarde une météorite? C'est si beau que ça? Enfin, est-ce que c'est des beaux objets, ces météorites? Elles ont des traces, je crois que c'est ça. Il y a des chondrites qui sont carbonées, d'autres qui ne le sont pas. Enfin...
Alors, il y a tout un tas de familles de météorites. Bon, la plupart, effectivement, ce sont des pierres de couleur noire. Ça ressemble un peu à des pierres volcaniques, donc rien de particulier... à première vue, en tout cas si on n'est pas connaisseur, elle peut avoir aussi un peu d'une couleur rouille, puisque la plupart des météorites comportent de grandes quantités de métal, de fer en particulier. Après, c'est vrai que on peut voir cette origine extraterrestre par rapport à certaines structures qu'on voit en surface. Alors, parce qu'effectivement, quand la pierre tombe sur la Terre, donc elle traverse l'atmosphère, donc il y a un phénomène de fusion, il y a une croûte qui se forme, on voit aussi des lignes de fuite donc qui sont liées effectivement à ce passage dans l'atmosphère. Donc effectivement, on cherche ces petits détails d'ailleurs qui vont donner de la valeur, une valeur marchande à une météorite. Et puis effectivement, il y a ces formes un peu sculpturales, et puis il y a aussi toute l'imagination qu'il y a derrière, le fait de voir et de tenir dans la main une pierre comme ça qui vient de l'espace, qui est âgée de 4,5 milliards d'années. Donc effectivement, ça peut quand même...
Oui, ça nous remet en perspective un petit peu, ça nous ramène à notre place.
Tout à fait, donc ces formes sculpturales effectivement intéressent justement les collectionneurs d'art contemporain qui peuvent y voir cet intérêt particulier.
Les quatre cosmo-énergies de ses compagnons se sont fondus en celles de Seyar.
Par les météores de Pégase.
Les météores ont changé de forme, on croirait un rayon laser à présent.
Je ne peux pas croire qu'ils puissent projeter autant d'énergie.
Si on reparle sur l'intérêt scientifique de ces pierres, alors j'avais lu que certaines pierres, donc comme la chondrite carbonée d'Allende, tombée en 1969 au Mexique, elle a pu énormément nous en dire sur la naissance du système solaire.
Absolument. Donc cette météorite est vraiment une pièce singulière. Et effectivement, que les collectionneurs, tous les collectionneurs veulent avoir ne serait-ce qu'un tout petit bout d'Allende. On en trouve absolument dans toutes les bourses. Donc ça fait partie un peu des météorites stars. Et cette météorite a révélé quelque chose d'extraordinaire. Il y a ce qu'on appelle à l'intérieur des inclusions réfractaires. Et les techniques les plus pointues de datation ont permis de montrer qu'en fait, c'était des échantillons de minéraux les plus anciens qu'on dispose. Plus anciens que ce qu'on retrouve sur Terre. Plus anciens même d'ailleurs que les chondres dont tu as parlé. C'est vraiment les toutes petites structures qui se sont formées justement quand la nébuleuse... quand le disque protoplanétaire a commencé à se condenser. Et donc, on a pu dater ces inclusions réfractaires dans la météorite d'Allende à 4,57 milliards d'années. Donc, c'est vraiment un témoignage exceptionnel de la naissance du système solaire.
Et moi, j'ai envie de savoir comment, justement, des collectionneurs peuvent récupérer un bout de cette météorite d'Allende. Parce que j'imagine qu'elle est gardée par des scientifiques ou gardée dans un musée maintenant, cette météorite. Ou alors, elle est immense.
Alors, j'ai plus le chiffre en tête, mais pour cette météorite-là, effectivement, c'était des quantités importantes. Parce qu'effectivement, le prix des météorites varie aussi en fonction de l'offre et de la demande, des quantités disponibles. Mais alors, les scientifiques ont pu en acquérir et en conserver tout de suite des quantités importantes. Mais les chasseurs, les collectionneurs, les chasseurs ont pu voir tout autour et récupérer eux-mêmes des échantillons. Puis après, c'est comme ça qu'après, ça arrive sur le marché privé. Ce qui fait qu'on peut, tout un chacun peut en acquérir.
Du coup, est-ce que ça vaut le coup pour moi, éventuellement, d'aller chercher dans le bois, dans les bois autour de Paris, si jamais il n'y a pas des bouts de météorites? Ou est-ce qu'il y a des zones sur Terre qui sont particulièrement propices pour les chasseurs de météorites?
Alors, les météorites tombent statistiquement partout sur la Terre. On a autant de chances de trouver qu'une météorite tombe en France ou en Afrique du Sud. Seulement, il y a des endroits qui sont beaucoup plus propices pour la chasse. Déjà, en France, par exemple, la végétation va masquer très rapidement donc des petites pierres. Donc, même si on sait à peu près dans quelle zone elle a pu tomber, ça va être très difficile de la retrouver dans une forêt, dans un champ, etc. Donc ce sera pas intéressant. Donc, en fait, on va privilégier plutôt pour la chasse aux météorites les endroits qui sont dégagés et qui sont et qui ont une couleur où les météorites vont pouvoir ressortir. Donc typiquement l'Antarctique, c'est vraiment l'endroit privilégié pour les scientifiques depuis toujours. Il y a des expéditions régulières où les météorites ramènent des quantités, où les scientifiques ramènent quantité de météorites qui sont après analysées. Donc évidemment seuls les scientifiques peuvent aller en Antarctique, mais aussi après il y a les déserts qui sont des endroits aussi secs et dégagés. Donc en particulier le Sahara, où ça a été, c'est là où effectivement où on a commencé vraiment où le marché de la météorite a commencé à se développer dans les années 90. En fait, ce sont d'ailleurs surtout des marchands de fossiles et de minéraux français qui ont entraîné un peu les nomades dans le Sahara à reconnaître ce type de pierre, qui leur ont donné des détecteurs de métaux, qui leur ont donné des informations pour les apprendre aussi à les reconnaître visuellement. Donc, ils ont collecté tout un tas de pierres, ils les ont ramenées dans certains endroits, donc au Maroc en particulier. Là, on fait des analyses et c'est en fait depuis le Maroc d'ailleurs qu'on alimente le marché mondial. Donc, en fait, c'est surtout dans ce type de terrain, il faut aussi de préférence que ce soit pas volcanique, puisque comme je vous l'ai dit, ça ressemble beaucoup à des basaltes. Et puis aussi, on cherche des terrains qui n'ont pas été renouvelés géologiquement pour
pas qu'elles soient sous 4 mètres de profondeur.
Absolument. Et petite remarque aussi, si le Sahara c'était vraiment le terrain de prédilection de tous les chasseurs de météorites, grâce effectivement à tout ce travail qui est effectué par les nomades, en fait, qui pouvaient pas courir tout le Sahara, qui faisaient un peu fi des frontières et qui au gré des caravanes et des pérégrinations, effectivement, pouvaient découvrir tout un tas de pierres. Donc c'est devenu quand même un peu, on a beaucoup cherché là-bas, c'est peut-être un peu saturé. Il y a aussi beaucoup de pays où c'est devenu un peu dangereux, évidemment, de faire de la prospection. Il y a beaucoup de pays aussi d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient qui ont décidé décidé d'interdire la chasse aux météorites, comme l'Algérie ou comme Oman. Et donc aujourd'hui, la chasse aux météorites s'est beaucoup déplacée en Amérique du Sud, au Chili, dans le désert d'Atacama en particulier.
On est descendu comme un putain de météore. Et voilà où on a terminé.
Ok, donc si jamais la chasse est même interdite dans certains pays, ça veut dire que ce marché noir, hein, qui a l'air en tout cas assez décloisonné, ou qui se fait en plus du marché classique pour les scientifiques, est-ce qu'il vient cannibaliser le marché scientifique? C'est-à-dire que est-ce qu'il prive les scientifiques de certaines pierres?
En fait, non, sauf quelques cas particuliers. Ceux qui se sentent peut-être un peu lésés par cet engouement et le développement de la chasse aux météorites, c'est peut-être les muséums. Effectivement, qui avaient l'habitude de pouvoir avoir des belles collections, de y chercher des très belles pierres à mettre en valeur derrière les vitrines pour montrer au public. Donc effectivement, acheter des grosses pierres aujourd'hui, les plus belles pierres, ça devient très difficile. Parce qu'effectivement, plus les pierres sont grosses, tu as rappelé tout à l'heure le coût au gramme, ça peut vite devenir compliqué. Donc effectivement, il y a des musées qui essaient d'entretenir des sortes de partenariats. Ils font valoir cette légitimité ou cet intérêt à montrer au public. Donc effectivement, des très belles météorites. Donc on essaie d'avoir des accords avec des États ou avec des chasseurs pour récupérer des choses. Mais effectivement, ça devient très difficile pour eux, notamment dans des ventes aux enchères, de s'aligner sur tel ou tel collectionneur qui va pas hésiter à acheter au prix fort. Donc pour eux, ça peut effectivement, ça pose un peu quelquefois des problèmes. En revanche, pour les scientifiques, c'est plutôt gagnant-gagnant. Parce qu'effectivement, plus il y a de chasseurs de météorites, plus il y a de zones qui peuvent être couvertes, plus il y a de moyens humains qui peuvent être mobilisés. Alors effectivement, les laboratoires, de temps en temps, font des expéditions ici et là. Mais là, effectivement, il y a aujourd'hui, dans le Sahara et ailleurs, il y a peut-être des dizaines de milliers de personnes qui ont les yeux rivés vers le sol, qui cherchent en permanence ce type de pierre, qui finissent par arriver dans les laboratoires. Pourquoi? Pour une raison très simple, pour une raison économique. C'est-à-dire que pour qu'une météorite puisse passer d'une main à l'autre, il faut un certificat. Il faut un certificat qui authentifie la pierre, qui précise ses caractéristiques, effectivement quel type de météorite, de quoi est sa composition chimique, son histoire géologique, etc. Et ça, seuls les scientifiques peuvent le faire avec leurs instruments et leurs expertises. Donc en fait, quasiment toutes les météorites, à part quelques exceptions, que je pourrais préciser, toutes les météorites passent par le reste dans le circuit scientifique. Et en fait, il y a quelque chose qui s'est mis en place, c'est-à-dire que celui qui achète ou celui qui trouve une météorite, donc va voir un laboratoire, il lui dit voilà, moi j'ai besoin de ce certificat, de ces études, en échange, je vous donne soit 20 grammes si ma pierre fait moins de 100 grammes, soit 20% si elle fait plus de 100 grammes. Et donc les scientifiques ont toujours un échantillon, et avec 20 grammes ou 20%, on peut faire a priori toutes les analyses nécessaires.
Ok. Donc oui, c'est vraiment gagnant-gagnant, quoi. C'est ce
absolument.
Que tu disais.
Donc tu parlais tout à l'heure de marché noir. Ce qu'on peut évoquer effectivement, c'est qu'il y a des pays, où, par exemple l'Algérie, où la chasse est interdite. Alors voilà, les nomades vont peut-être aller trouver des pierres en Algérie. On les retrouve au Maroc. Donc il y aura pas, en fait, dans les pierres qui viennent du Sahara, on n'a jamais en fait ou très rarement l'origine exacte. C'est-à-dire qu'il y a marqué c'est Nord-Ouest Africa et c'est tout. Et après, donc on fait quand même toutes les analyses.
Fermez les yeux sur les frontières.
Voilà, c'est ça. Donc là, c'est peut-être cette zone. Il y a cette zone un peu floue. Et puis aussi, je parlais tout à l'heure du marché chinois. Effectivement, qui vont quelquefois se fournir directement auprès des grossistes. Alors c'est souvent pour des pierres qui ont un faible intérêt scientifique, mais qui vont acheter directement des grosses quantités notamment de météorites de fer, et qui vont les amener directement en Chine pour en faire justement pour les remodeler, pour en faire des sculptures, des œuvres d'art. Donc là effectivement ça passe sous les radars des scientifiques, et c'est une matière qui est transformée. Mais bon,
ni vu ni connu.
Voilà, donc c'est peut-être les deux exceptions.
Mais donc tu disais, ça c'est des les météorites de fer, c'est des météorites qui viennent d'astéroïdes, c'est ça?
Tout à fait. Donc c'est on en a de grandes quantités parce que c'est celles qui sont les plus faciles aussi à trouver. Parce que justement avec un détecteur de métal et un peu d'expérience, on peut en trouver relativement facilement. Un petit mot sur ces météorites de fer. En fait, ils viennent souvent des noyaux de gros astéroïdes. C'est-à-dire que quand les astéroïdes se forment, s'ils sont très gros, en fait, on va avoir toute la matière métallique qui est plus lourde, qui est plus dense, qui va se retrouver au cœur des astéroïdes, qui vont former donc des noyaux. D'ailleurs, comme c'est le cas sur Terre, le noyau de la Terre est très dense et composé grande concentration donc de fer. Et donc dans ces astéroïdes, dans le moment du système solaire primitif, quand il y a eu justement ces types de collisions, ça a arraché progressivement donc la partie superficielle, ça a mis à nu donc c'est le cœur des météorites, leur noyau, et donc ce sont ces météorites de fer, en fait ce sont des morceaux de noyaux d'embryons de planètes qu'on retrouve après sur Terre.
Donc c'est, okay. Voilà. Ils n'ont pas une grande valeur, mais en tout cas en termes de symbole, c'est quand même assez important.
Tout à fait. On peut avoir effectivement dans la main ces noyaux de
mini planètes.
Effectivement de corps célestes. Donc c'est d'ailleurs on le sent au toucher. Enfin il y a quelque chose d'assez fascinant. Alors moi-même je ne suis pas collectionneur, mais le fait de les voir, de les toucher, d'entendre aussi ces chasseurs et ces collectionneurs qui sont effectivement tous des passionnés à parler de ces pierres extraterrestres, on est vite aussi embarqué. Il y a quelque chose d'assez envoûtant et on peut être pris aussi très rapidement par cette passion. C'est quelque chose d'assez fascinant.
Le commandant Skywalker est rentré ?
Non, il est allé voir une météorite qui est tombée près de lui.
Il y a une telle activité météorique ici que ça va être difficile de repérer les vaisseaux qui approchent.
Général, je ne peux plus rester ici. Il faut que je parte.
Ah, j'en suis désolé.
Alors, ce marché, il n'est pas naissant, mais il est en pleine explosion. Mais quid dans 20 ans ou 30 ans, disons que l'homme a mis le pied sur Mars, est-ce que la météorite de Mars aura encore la même valeur ? Est-ce que ce marché ne va pas se casser la figure avec l'expansion de l'homme dans les confins de l'univers ?
C'est vrai que, par exemple, pour les... Avant de revenir sur Mars, je prends l'exemple de la Lune. Les premières météorites lunaires qu'on a pu découvrir et certifier, elles ont eu elles aussi tout de suite une très grande valeur. Après, quand on a appris à les reconnaître, quand on a un peu mieux su comment les chercher, on en a découvert davantage. Et donc là aussi, par rapport aux règles de l'offre et de la demande, effectivement, les prix ont baissé. Donc il y a attention, quand on achète une pierre au prix fort, c'est arrivé d'ailleurs pour des scientifiques, par exemple le CNES, il y a une quinzaine d'années, là aussi j'ai plus le chiffre en tête, mais avait acheté très très cher un échantillon à un propriétaire, à une personne privée, puis après on a vu le prix qui a quand même considérablement chuté. Donc attention quand on investit, parce qu'il y a des gens qui investissent hein, dans la pierre céleste, c'est aussi un marché en pleine expansion, il faut être un peu connaisseur et être je pense bien conseillé, mais bon attention à des fluctuations qui sont possibles. Pour Mars, je pense que si l'homme posait le pied sur Mars et le fait qu'on renouvelle avec tous les projets actuels, donc cet intérêt pour la planète rouge, a priori ça pourrait plutôt participer à une flambée des prix. Mmh. Enfin, parce qu'effectivement, si tout le monde s'intéresse à Mars, le fait d'avoir effectivement des morceaux de Mars chez soi dans la main, ça pourrait à mon sens participer plutôt à une nouvelle flambée plutôt qu'à un écroulement des prix.
Et puis il n'est pas exclu qu'on trouve sur Mars des bouts d'autres planètes éventuellement.
Je sais pas. Il faudrait faire quelques calculs et je demande aux planétologues. Mais par contre, alors on a des morceaux de Mars, mais on aimerait bien avoir encore d'autres. On cherche d'autres météorites martiennes qui nous apporteraient peut-être des indices sur l'habitabilité passée de la planète, bien l'origine sûr. Du vivant, par exemple sur des terrains martiens où il y aurait eu des argiles. Parce qu'il y a certaines théories qui disent que effectivement il y aurait eu la vie pourrait venir directement de Mars. Mars qui a plusieurs milliards d'années, on le sait, où l'eau a coulé, était une planète assez comparable à la Terre. Donc il y aurait pu avoir un astéroïde qui impacte la surface martienne, qui emporte avec elle. Des expériences ont été faites en laboratoire à ce sujet. Il y a certaines bactéries qui résistent à des conditions incroyables, même dans l'espace, et qui auraient pu arriver comme ça sur Terre. Donc en fait, là aussi, ça prendrait une valeur, ce serait une découverte extraordinaire, et avec effectivement... une nouvelle catégorie de météorites et des prix probablement incroyables auxquels on pourrait s'attendre.
Ok, on termine quand même avec une conclusion sur la possibilité que nous soyons tous des héritiers de la planète Mars.
C'est possible, c'est bon. Absolument.
C'est une bonne conclusion. Me jetez pas la pierre justement parce que j'ai épuisé mon stock de questions. Il est temps pour nous de ranger nos cailloux. Franck Daninos, merci beaucoup.
Merci à vous.
J'espère que j'aurai à nouveau le plaisir de t'accueillir à notre micro. Pour ceux qui auraient du sable dans les oreilles, vous êtes le spécialiste en sciences fondamentales au magazine Science et Avenir. La conclusion est généralement l'occasion de faire d'une pierre deux coups. Cette fois, on va parler d'étoiles non pas filantes mais stagnantes. Je vous propose d'en accrocher par grappe de 5 sur la page iTunes de 6ème Science. Si nos discussions sur les immensités froides de l'espace vous inspire, vous pouvez également y laisser un commentaire météoritique. Alors, à vrai dire, je n'ai aucune idée de ce à quoi un commentaire météoritique peut bien ressembler, mais bon, faites-vous plaisir, que ça ait de l'impact. À dans un mois, gardez la tête en l'air et n'oubliez pas, on envoie la science dans tous les sens.
Pierre ?
Présent.
Pierre ?
Présent.
Pierre ?
Présente.
Pierre ?
Présente.
Ah. Pierre ?
Présent.
Pierre ?
2,21 gigawatts ! Mon Dieu ! Recherche, scanner.
Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue ?
Chut, Jamy, je mène une enquête.
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.